car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit, « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Il dit cela, quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. » Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Voilà. Alors, j'ai rajouté une dizaine de pages, donc je n'arriverai pas à finir encore aujourd'hui. Mais je pense que je vous ferai grâce après. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez, la fois dernière, j'avais terminé un peu abruptement, disant que la crainte que nous devions avoir et avec laquelle nous devions vivre, ce n'est pas la crainte d'entrer dans les promesses que Dieu nous fait, notamment la promesse d'entrer dans le pays. Et pour cela, j'avais évoqué les 12 espions et notamment les 10 qui avaient refusé d'entrer. Clairement, en disant ce pays que Dieu nous donne, c'est rien, c'est n'importe quoi. Ça ne nous correspond pas, nous ne voulons pas entrer là-dedans. Ils avaient la crainte d'entrer dans le pays. Or, la crainte qu'ils auraient dû avoir est la crainte que nous devons avoir. C'est de refuser d'entrer. Parce qu'à partir du moment où nous refusons d'entrer, nous sommes exclus de l'entrée. C'est-à-dire que même si on change d'avis, en tout cas c'était là la situation du peuple d'Israël, le lendemain, ils ont dit, mais on va y aller, on va y aller. Et Moïse leur dit, mais qu'est-ce que vous faites? Dieu n'est pas au milieu de vous. Vous n'entrerez pas. Et ils n'ont pas pu y entrer. Alors, je vais essayer de faire le lien avec ça. Et je me suis dit, si l'enfant de Dieu devait avoir une crainte, une crainte, on sait que la peur, on sait que la crainte a une fonction, c'est celle de nous préserver la vie, en fait. C'est-à-dire que c'est la même chose pour les animaux. Lorsque un animal se déplace et qu'il perçoit des choses menaçantes, il va se protéger. En principe, on agit de la même façon. Si on perçoit des choses qui sont menaçantes, on va chercher à se réfugier quelque part, à se protéger d'une manière ou d'une autre. Quand on nous frappe, on met un bras si on en a le temps. Mais en tout cas, c'est un réflexe qui est normal. Lorsque nous rencontrons Dieu, Paul l'a bien dit ce matin, il y a ce fardeau qui s'enlève. Mais est-ce que c'est ensuite la porte ouverte pour une vie où on vit les choses avec nos réflexes, sans trop réfléchir, en lisant un peu la Bible, en écoutant un peu les choses de ci, de là, les conseils? Ou est-ce que Dieu attend de nous une attitude qui soit cohérente et qui corresponde à l'œuvre qu'il a fait dans notre cœur? Et il y a une crainte que nous devons avoir, qui d'une certaine manière est la crainte de Dieu, mais qui est surtout la crainte de perdre son salut. Alors on me dit, oh, ça ne correspond pas à ma doctrine, ça. Moi, on m'a dit que lorsque j'avais le salut, c'était pour la vie éternelle et il n'y avait plus possibilité pour moi de le perdre. Je ne suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous dire que nous devrions vivre avec une crainte attachée à nos pas, qui est celle d'être perdu, seconde après seconde, minute après minute. Parce que c'est cette crainte-là qui est salutaire pour notre vie quotidienne. Aujourd'hui, nous avons trop souvent des croyants qui vivent dans une sorte de confort spirituel, entre guillemets, une sorte de certitude, finalement, quand on creuse, rempli d'incertitude. Mais aucune crainte de passer à côté de l'essentiel. Aucune crainte d'offenser Dieu. Aucune crainte de pécher. Aucune crainte de faire jour après jour les mêmes erreurs et sans arrêt recommencer. Pas de crainte de cela. Or, je crois que s'il y a quelque chose qui préserverait le croyant de la chute, ce serait de vivre sa vie dans une sorte d'accepter de vivre dans un perpétuel déséquilibre en ce qui concerne son salut. La marche. Comment est-ce qu'un enfant apprend à marcher? Éphésiens nous dit marcher. Il ne nous dit pas stagner. Il ne nous dit pas rester sur place. Il dit marcher. Un enfant apprend à marcher en marchant. Il n'apprend pas à marcher en restant immobile. Parce que très rapidement, on le voit, il tombe. Mais il trouve son équilibre par la marche. Et la marche, c'est un perpétuel déséquilibre, vous êtes d'accord? Si je reste comme ça, je ne tiens pas. Je suis obligé de mettre mon autre pied. Et ainsi, j'avance. S'il y a quelque chose qui vraiment nous aiderait à développer notre vie spirituelle, c'est cette acceptation de dire « Non, je ne suis pas arrivé. Il y a encore un chemin. Il y a un autre côté. Il y a un autre bord. » Vous savez, notre vie entière ne suffira pas à connaître et expérimenter les profondeurs de Dieu. Et je crois bien que même l'éternité ne suffira pas à expérimenter les profondeurs de Dieu. Jésus, pour étayer ce que je dis, Jésus lui-même disait « Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. » Paul aux Philippiens, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Et aux Romains, tu subsistes par la foi, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas. Il dit la même chose que l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, ça parle d'Israël, du peuple de Dieu dans l'Ancien Testament, il ne t'épargnera pas non plus. Et même dans la version Martin, c'est « Prends garde, il ne t'épargnera pas non plus. » Et ça correspond bien à ce que nous avons lu dans Hébreux. Et ma question, c'est est-ce que dans notre vie, nous avons cette urgence, ce sentiment que les choses avancent, que Dieu vient? Est-ce que nous avons l'urgence dans notre cœur d'être sans arrêt trouvé dans l'obéissance, sans arrêt trouvé dans de bonnes dispositions pour notre Seigneur? Est-ce que nous permettons à Dieu de nous confronter dans nos certitudes? Le drame avec le temps, c'est qu'on s'installe dans des certitudes, doctrines ou autres. Est-ce que nous avons cette possibilité d'accepter de nous remettre en question? Nous avons des peurs dans nos vies qui sont des peurs irraisonnées. Nous avons des peurs qui ne sont pas cohérentes avec notre profession de foi. Nous disons que oui, Dieu a tant fait dans notre vie. Dieu a tant fait dans ma vie. Mais finalement, lorsqu'on gratte un peu, on s'aperçoit que on a l'impression que Dieu n'a rien fait dans ma vie ou dans votre vie. Lorsque le peuple d'Israël s'est trouvé face à Goliath, l'armée était remplie de peur. Remplie de peur, irraisonnée. Vous me direz, mais il y avait Goliath. Et moi, je vous dirais, mais il y avait Dieu. L'armée était en déroute. Si Goliath faisait un pas, ils s'enfuyaient. Ils avaient peur. Et dans notre vie chrétienne, alors que nous avons professé que Dieu a fait tant de choses, lorsque nous faisons face à des choses qui nous font peur, comment est-ce que nous réagissons? Est-ce que nous avons cette même attitude? Dès que ce qui nous inquiète avance, nous reculons? Dès que ce qui nous fait peur s'approche, eh bien nous fuyons. Nous donnons beaucoup d'importance à nos peurs. Nous donnons beaucoup de foi à nos peurs. Alors, il faut qu'en nous surgisse un petit berger. Il faut qu'en nous apparaisse un petit berger. Quand j'ai relu cette histoire récemment, je me suis dit, mais David n'a pas montré une seule fois de la crainte. Et les armes qu'il a utilisées sont des armes ridicules. Mais il était lui-même ridicule face à cette armée de soldats. Il était n'importe qui. Il n'était même pas prévu qu'il soit là. Si ce n'est qu'il fallait ramener à manger aux frères et donner des informations au papa qui s'inquiétait. Et donc, c'est un petit berger qui est parti et qui est allé amener à manger à ses frères, qui, entendant et voyant ce qui se déroulait, s'est offusqué. Il dit, mais comment est-ce possible que l'armée d'Israël soit dans un état pareil face à ce pantin? Comment est-ce possible que le peuple de Dieu, l'Église de Christ, soit dans un état pareil à cause de quelques fantômes? Dieu ne veut pas d'une église de chrétiens terrorisés par des angoisses qui n'ont pas de nom, des peurs sur lesquelles on ne peut pas mettre le doigt. Nous n'avons qu'une seule chose à craindre, c'est d'offenser Dieu. Et offenser Dieu, c'est s'enfuir lorsque nous devons faire face à la peur avec la foi. Désobéir à Dieu, c'est être incrédule lorsque nous devons faire face à des difficultés. La désobéissance et l'incrédulité, je le répète dans Hébreux, c'est exactement pareil. Vous pouvez interchanger les mots et vous avez exactement le même effet. Je reviendrai sur ces aspects. Il y a un repos prévu pour les enfants de Dieu depuis la création. Dans ce passage, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, bon, il m'a fallu du temps, mais on remarque qu'il y a une sorte de chronologie qui est donnée concernant le repos de Dieu. Et ça commence à la création. Je vais vous le lire en entier et ensuite j'y reviendrai rapidement. Car il a parlé quelque part, verset 4, ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour. La chronologie c'est verset 8. Car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Ensuite verset 7. Dieu fixe de nouveau un jour. Aujourd'hui, en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et verset 9, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Dieu se repose de ses œuvres le septième jour. Je l'ai dit la fois dernière, et José l'avait soulevé, c'est vrai que le repos, c'est d'une certaine manière se prendre un peu de recul. Mais en l'occurrence, là, le repos de Dieu, c'est le repos de la contemplation de ce qu'il a fait. Et ça ne veut pas dire que Dieu ne travaille plus aujourd'hui, mais ça veut dire qu'il y a eu là un achèvement. C'est ce repos que Dieu veut nous faire partager. Partager sa nature, partager sa joie reposante, sa présence reposante. Nous faire entrer dans une communion intime avec lui, pour aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité. Or, cette possibilité s'est retrouvée, a été rendue impossible parce que Dieu a dû faire face à un peuple qui était désobéissant. Le peuple d'Israël, qu'on connaît comme étant le peuple au cou roide, au cou raide, eh bien, ce peuple-là, Dieu n'a jamais permis à ce qu'il entre dans le pays. Ils n'entreront pas et ils ne sont pas entrés, si ce n'est Josué et Caleb. Ils avaient vu les œuvres de Dieu. Ils avaient vu tous les miracles que Dieu avait accomplis pour eux. Et pourtant, Dieu n'a pas trouvé chez eux la foi qui aurait permis qu'ils entrent dans le pays. Ils ont provoqué Dieu au point qu'il a fini par décider que son peuple n'entrerait pas. Mais 40 ans plus tard, après que, et là aussi c'est un parallèle qu'on peut faire, il est dit après que les hommes de guerre périrent dans le désert, c'est comme ça qu'ils sont appelés, les hommes de guerre. C'était des soldats. Lorsque les hommes de guerre sont tous morts, ceux qui sont entrés étaient des bergers. C'est comme ça qu'ils sont nommés. Les bergers sont entrés. L'armée de Saül était des hommes de guerre. Ils s'enfuyaient devant Goliath. C'est un berger qui a combattu Goliath. L'armée de l'Éternel n'est pas une armée de soldats. C'est une armée de bergers. Donc finalement, ils entrent dans ce pays. Ils entrent et ils possèdent le pays autant que faire se peut. On sait que c'était imparfaitement que les choses se sont déroulées. Et tout simplement, ce n'était pas là la fin de la solution que Dieu avait prévue pour son peuple. Il y avait autre chose, un autre jour, n'est-ce pas ? Verset 8. Si Josué leur eût donné le repos, ils ne parleraient pas après cela d'un autre jour. Josué ne leur a pas donné le repos que Dieu veut donner à son peuple. Dieu fixe un autre jour. Il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Là où je veux en venir, c'est que dans cette chronologie, on voit que le repos était imparfait pour le peuple de Dieu. Mais Dieu a prévu un jour de repos qui est un vrai jour de repos pour le peuple de Dieu. Après celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, il n'y aura pas d'autre jour de repos. Nous sommes aujourd'hui dans le jour de repos que l'Éternel a fixé pour son peuple. Et nous ne devons pas être empêchés d'y entrer à cause de notre incrédulité. Nous ne devons pas être empêchés d'y entrer à cause de notre manque de foi, de confiance dans la capacité de Dieu à nous y faire entrer. Alors il continue, travaillons donc, efforçons-nous, c'est pareil, travaillons. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. On entre dans le repos de Dieu au travers de Jésus-Christ. Jésus-Christ est la porte et on entre par lui. Il n'y a pas d'autres entrées possibles si ce n'est celle de Jésus-Christ. On n'entre pas par l'activisme. On n'entre pas en disant « Ah, j'ai commencé à comprendre quelque chose, maintenant je vais faire ceci, je vais faire cela. » On entre dans le repos par Jésus-Christ. On entre en s'abandonnant, en comprenant que l'homme en tant que tel, que l'homme en tant que caractère, en tant que pensant, en tant que faisant, avec toute sa force et sa puissance, on entre en laissant tout cela à la porte. On entre en réalisant que notre utilité réelle en tant que personne est nulle, même si nous sommes très capables. Même si nous avons de grandes capacités, on entre dans le repos uniquement lorsque nous avons accepté de laisser toute cette propre capacité, dans laquelle il y a aussi la propre justice, derrière nous. La parole de Dieu nous dit que Christ veut faire de nous une nouvelle créature. Ce ne sont pas des paroles en l'air. C'est une réalité. Je ne dis pas que Dieu n'utilisera pas nos compétences et nos capacités, peut-être plus tard. Mais ce que Dieu veut, et c'est la condition pour que vous puissiez connaître le repos, c'est que tout ce que vous pensez être capable de faire pour Dieu, toute l'utilité que vous pensez avoir pour lui, puissiez laisser ça à la porte. Parce que vous savez, la seule chose qui est utile pour Dieu, c'est que vous fassiez sa volonté. C'est la seule chose qui l'intéresse. Que vous soyez capable de faire ceci ou cela, ça fait longtemps qu'il le sait. C'est lui qui vous a fait. Mais ce qu'il veut, c'est que vous lui soyez vraiment utile et que pour cela, vous accomplissiez sa volonté et uniquement sa volonté. Afin que personne ne tombe ou que personne ne s'écroule. En imitant le même exemple de désobéissance ou d'incrédulité. Voilà. On s'écroule. On s'écroule si on ne vit pas dans la foi. On s'écroule si notre vie est fondée et basée sur autre chose que la foi en Dieu. Vous pouvez faire semblant de ne pas être écroulé. Vous pouvez faire semblant de paraître bien et en forme. N'est-ce pas? On peut actionner le bouton avant d'entrer ici et le réactionner en sortant. Vous pouvez bluffer tout le monde. Mais pas lui. Pas lui. Faire la volonté de Dieu en toute chose, c'est le seul moyen de se préserver de la chute. Efforçons-nous d'entrer, car la parole de Dieu est vivante et efficace. Comment est-ce que nous considérons la parole de Dieu ? Est-ce que nous la considérons comme un bon bouquin de philosophie? Est-ce que nous la considérons comme un bon livre de doctrine? Est-ce que nous la considérons comme un manuel de savoir-vivre du chrétien? Est-ce que nous la considérons comme étant un ensemble de lois? Est-ce que nous ne la considérons pas du tout? Dieu nous a donné sa parole. En tout cas, tout ce qu'il a voulu nous dire, il l'a fait en sorte que ce soit dans un livre et que nous puissions être d'une certaine manière jugés par ce livre. Lire la Bible, c'est pas nécessairement facile. Je travaille quotidiennement avec des gens qui ont des difficultés de lecture. Je travaille quotidiennement avec des gens qui ne liraient même pas une bande dessinée parce que c'est trop difficile pour eux. Mais, et ce genre de personnes, lorsqu'ils viennent au Seigneur, en général, ne lisent pas plus après. Oui, je connais des histoires de personnes qui, miraculeusement, savent lire, ont appris à lire après leur conversion. Mais de façon générale, ce n'est pas comme cela que ça se passe. Ceux qui ont eu des difficultés de lecture avant, ceux qui ne lisaient même pas un roman, continuent à avoir des difficultés de lecture après. Je disais à Brigitte, il n'y a pas de miracle didactique qui se met en place au moment où on donne sa vie au Seigneur. Et là, c'est juste une digression, mais ça doit interpeller l'Église de Christ. Comment faisons-nous? Qu'est-ce que nous proposons à ces gens qui aiment le Seigneur, qui ont fait une rencontre avec lui réelle, mais qui ne peuvent pas lire, pour qui les mots sont trop compliqués, pour qui les tournures de phrases sont trop compliquées, pour qui même lire une bande dessinée est compliqué? Comment est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons quelque chose à leur proposer? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui a une idée? Ou ailleurs? Je pense que c'est un défi pour le monde chrétien aujourd'hui que d'arriver à faire en sorte qu'il y ait un bon enseignement de donner à des personnes qui n'ont pas la possibilité de lire, pour qui lire est juste impossible. Malheureusement, Internet, malheureusement et heureusement, mais très souvent malheureusement, Internet permet d'accéder à toutes sortes de matériel auditif, vidéo, et je dis malheureusement parce que beaucoup, 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 c'est du grand n'importe quoi. Et au lieu de fortifier dans la foi, ça amène une vie de foi qui n'est pas cohérente avec la parole de Dieu, parfois des propositions trop faciles de vie ou des messages qui n'incitent pas à la sainteté, mais plutôt à la facilité. Et là, je crois qu'il y a vraiment, pour des gens que le Seigneur appelle, il y a quelque chose à faire. Il y a un ministère, je dirais, auprès de ce type de public qu'il faudrait remplir. Nous, on a commencé avec les études bibliques et puis les formations bibliques le samedi matin. Ça peut être une réponse, mais il est nécessaire, je crois, qu'il y ait d'autres réponses données. La parole vivante et efficace doit avoir une capacité, celle de nous transcender, c'est-à-dire aller au-delà, dépasser des limites. Parfois, nous vivons comme si les déclarations de Jésus étaient des mensonges, comme si les promesses de Jésus étaient des mensonges. Jésus a dit, enfin, dans la parole, il a dit, « Celui qui se confie en l'Éternel ne sera pas confus. » Et nous vivons parfois dans la confusion. Et c'est toujours cette même attitude lorsque, face à la confusion et à la peur, nous réagissons avec un manque de foi flagrant. Alors nous sommes dans la confusion et nous faisons le Seigneur Jésus menteur. L'exercice de la vraie foi, c'est lorsque même dans ces grandes difficultés, nous pouvons nous tenir debout devant Dieu, les bras levés ou prosternés, et dire: Seigneur Jésus, malgré tout ce que je vois, malgré toute cette incapacité qui existe, malgré cette situation dont humainement on peut dire qu'elle est perdue, devant cela, ô Dieu, je me tiens les bras levés devant ton trône avec foi, parce que je crois que ta parole est oui et amen. Tout en moi peut dire le contraire. Tout en moi peut penser le contraire, ô Dieu. Mais malgré cela, j'affirme que ta parole est la vérité. Vous comprenez ce que c'est que la foi? La foi, c'est croire lorsqu'il n'y a plus rien à croire. Croire lorsqu'il n'y a plus de possibilité, lorsqu'il n'y a plus même une miette sur laquelle on peut s'appuyer. C'est de cela dont il est question. Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Nous devons nous exposer volontairement à la parole de Dieu. Nous devons nous exposer à la chirurgie de la parole de Dieu. C'est de ça dont il est question, n'est-ce pas? Une lame qui nous transperce et qui coupe. La foi, c'est de nous présenter devant Dieu et de dire: ô Dieu, j'accepte que ta lame pénètre et qu'elle me coupe à l'endroit où c'est nécessaire. Parce que si je ne le fais pas, je serai exclu. Parce que c'est ça la foi, c'est de croire que même l'opération chirurgicale de Dieu est là pour notre salut. Elle est là pour nous faire atteindre le pays que Dieu nous a préparé. Ce que nous devons craindre, c'est de refuser de nous exposer à la parole de Dieu. Nous ne devons pas craindre la lame de Dieu. Nous devons craindre de refuser de nous exposer à la parole de Dieu. Frères et sœurs, depuis des années peut-être, vous avez entendu la parole de Dieu. Et la parole de Dieu vous a incité à agir d'une façon ou d'une autre. Et vous avez chaque fois refusé d'agir de cette façon-là. Aujourd'hui, ne faites plus cela. Ne craignez plus la lame du Dieu Tout-Puissant. Elle opère de façon chirurgicale, de façon précise, avec un but, c'est celui de vous faire entrer dans son repos. Lorsque l'apôtre Paul écrivait, il a écrit de nombreuses lettres, il l'écrivait pour une raison. Il n'écrivait pas parce qu'il se trouvait écrivain et que cela, ensuite, il disait peut-être qu'on ira compiler ça dans un livre et on parlera de moi encore bien longtemps après. Il écrivait parce qu'il y avait des raisons. Et bien souvent, elles étaient doubles. Une raison, c'était pour encourager et une autre, c'était pour avertir. Une autre, c'était pour corriger. Et je ne suis pas sûr que ceux qui recevaient les lettres de Paul étaient toujours très contents. N'est-ce pas? Ils pouvaient se dire, oui, ils pensent à nous, c'est bien, mais ce qu'il nous écrit là, c'est quand même un peu dur. Comment est-ce que nous recevons la parole de Dieu? J'ai déjà posé la question. Est-ce que nous la voulons comme le texte qui permet d'étayer notre doctrine? Est-ce que nous croyons? Ou est-ce que nous acceptons d'être remis en cause régulièrement? Il y a une autre façon que Dieu utilise pour nous remettre en cause. Et on la trouve à plusieurs... On en trouve l'image de ça dans plusieurs endroits dans la parole. On a Joseph. On a souvent, les commentateurs, je ne sais pas pourquoi, disent souvent que Joseph était orgueilleux et que d'une certaine manière, ce qui lui est arrivé, c'est presque normal. Puisqu'il a dit à ses frères et à ses parents, n'est-ce pas, vous allez vous prosterner devant moi après ce songe qu'il avait eu. Joseph n'était pas orgueilleux. Joseph a raconté un songe comme José a raconté un songe ce matin. Et ceux qui étaient autour de lui ont très mal réagi. David n'était pas plus orgueilleux lorsqu'il est allé sur le champ de bataille et qu'il a vu ce qui se passait. Et qu'il a dit, mais moi je vais y aller. Son frère lui a dit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Tu n'es qu'un poseur. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire, moi, ça. Alors, c'est où? Je vais essayer de le trouver. Non, c'est pas là. Ça va être ça, oui. Verset 28. 1 Samuel 17, verset 28. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu. Alors, je vais commencer à 26. Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David, et il dit, pourquoi es-tu descendu, et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. C'est terrible. C'est terrible. Joseph, pareil. David, pareil. Et Jésus, vous pouvez lire tout l'évangile, c'était pareil. Mais pour qui te prends-tu, toi? Que peut-il, de quoi peut-il, qu'est-ce qui peut venir de bien de Bethléem ou de Nazareth? Frères et sœurs, veillons à ne pas avoir les mêmes réactions. Lorsque Dieu nous envoie des gens, ou lorsque peut-être même des novices dans la foi nous reprennent, ou nous disent des choses, et que quelque part ça nous dérange, et on se dit, oh mais celui-là, il sait pas de quoi il parle, il se prend pour qui, il se voit déjà Billy Graham. Veillons à ne pas faire le même péché d'orgueil que ces gens-là. Ils avaient du chemin à faire, certes. Dieu s'en est occupé, mais c'est l'affaire de Dieu. En attendant, ils étaient des aiguillons entre les mains de Dieu pour faire réagir son peuple. Ils ont été utilisés tous grandement par Dieu pour amener le peuple plus loin. pour terminer, David, qui n'est pas retourné à ses quelques brebis comme le voulait son frère, a combattu Goliath. Mais est-ce qu'on peut dire que David a combattu Goliath? Oui, d'une certaine manière. Je crois que Goliath a été humilié même avant de mourir. La foi de David était telle qu'il était en colère. N'est-ce pas ce petit berger qui n'avait rien à faire là, a laissé de côté la cuirasse qu'on lui proposait, l'épée qu'on lui proposait, et il a dit, moi, je ne suis qu'un petit berger. Je ne suis pas un combattant. Je suis un petit berger et quand il s'agit d'attraper un lapin le soir pour manger, je prends ma fronde, j'y mets un caillou et je tire. Eh bien, il a traité Goliath comme il traitait un lapin dans le désert. Il est descendu prendre 5 cailloux bien ronds, bien polis. En Alsace, on connaît ça, on a des ce qu'on appelle les galets du Rhin, qui sont des cailloux bien ronds, parce qu'ils sont polis par le cours d'eau, ils ont été polis, et donc ils sont jolis, ils sont bien ronds, et si vous les choisissez bien, vous avez de sacrés projectiles avec ça. Il a mis ça dans sa fronde, 5. Il est parti. Il a regardé Goliath, il s'est mis à distance, il a tiré. Il a fait mouche. C'est assez simple, n'est-ce pas? Et il a remporté la victoire. Et le peuple de Dieu, soi-disant, l'armée, était en fuite. Ils partaient. Quand ils ont entendu Goliath tomber, ils ont dû se retourner. Ils ont dit, il se passe quelque chose là-bas. Mais ils n'étaient pas là où il fallait être. David était là où il fallait être. Frères et sœurs, est-ce que nous sommes à la bonne place ce matin? Est-ce que face à nos inquiétudes, face à nos impossibilités, face à cette montagne que représente Goliath, est-ce que nous sommes allés faire un tour dans le désert pour nous enfuir en nous disant « ça va se calmer ?» Je vais regarder un film à la télé et demain ça ira mieux? Ou est-ce que, avec la foi, en sachant que l'Éternel est notre Dieu et que c'est lui qui combat pour nous, nous avons pu faire face, nous pouvons faire face à ce Goliath et l'éliminer avec la foi? Ou est-ce que nous faisons Dieu menteur? Est-ce que nous faisons l'œuvre de Christ sans intérêt? Je vous engage à ne pas mettre sous silence ce que vous avez entendu ce matin. Je vous engage à laisser le couvercle ouvert et à laisser mijoter tout cela. Je crois que le Seigneur veut que nous allions plus loin, que nous ne soyons pas impressionnés par tous les géants que le malin peut mettre sur notre route, mais qu'avec la foi, en sachant que l'Éternel a combattu et qu'il combat encore pour nous, nous puissions traverser, que ces montagnes deviennent des vallées, que ces difficultés deviennent sans intérêt. Que ces traits de caractère qui nous tiennent de si près disparaissent. Juste parce que nous avons tenu haut et fort la parole de l'Éternel et que nous avons dit au Dieu, tout ce que je vois, tout ce que je sens, c'est du bidon. La seule chose qui est vraie, c'est toi. Et c'est là-dessus que je m'appuie. Seigneur, je prie pour moi et pour mes frères et sœurs. Seigneur, afin que nous ne soyons plus arrêtés au moindre obstacle. Je prie au Dieu pour que tu trouves en nous un peuple victorieux qui a su saisir la victoire de Dieu à la croix. Seigneur, je prie afin qu'aujourd'hui soit un nouveau commencement pour les uns et les autres. Seigneur, je prie pour que ton nom soit réellement honoré et ne soit pas souillé, Seigneur, par notre incrédulité. Je prie, ô Dieu, que nous ne restions pas à l'extérieur, Seigneur, mais que nous puissions entrer dans ce pays et fouler, Seigneur, du pied tout ce qui nous appartient, et que nous puissions remporter les victoires et les victoires. Je prie, Seigneur, pour que la parole de Dieu demeure en chacun d'entre nous, Seigneur, et que la preuve qu'elle demeure soit que nous changeons jour après jour. Ô Père, glorifie ton nom ce matin. Seigneur, élimine, Seigneur, toute trace d'incrédulité. Élimine, ô Dieu, toute trace de peur. Seigneur, fais que nous soyons de ceux qui sortent et non pas de ceux qui se replient. Fais, ô Dieu, que nous soyons de ceux qui tirent avec une fronde et qui ne cherchent pas, Seigneur, à combattre comme des hommes forts. Seigneur, fais de nous des bergers. Fais de nous, Seigneur, des gens, des hommes et des femmes qui apprennent de toi, Seigneur, qu'ils fassent beau, qu'ils fassent moche, Seigneur, qu'ils soient dans la facilité ou dans la difficulté. Seigneur, que tu puisses te réjouir en chacun d'entre nous. Seigneur, que lorsque tu viendras, nous soyons trouvés juste comme toi tu es. Seigneur, glorifie ton nom ce matin, dans le nom de Jésus. Amen.